Sont une menace
plus que le sida, plus qu'Ebola.
Que les stocks de vaccins ne soient pas
suffisants.
Que
les choses soient claires. Il n'y a aucune raison de paniquer.
Papa, à quoi tu joues ?
Bonjour, je suis Jean.
Salut, moi c'est Arnaud.
Bonjour, je suis David.
Donne-moi ta main et prends la mienne, nous sommes en juillet, mais oui, l'école est finie, enfin presque, et vous écoutez toujours, papa, à quoi tu joues ? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 45e épisode de Papa à quoi tu joues, le podcast pour les parents et les gens très occupés qui vous ouvrent une petite porte sur la culture vidéoludique. Bonjour à tous, comment ça va? Je suis avec Arnaud et David, messieurs, comment ça va? On ne parle pas de météo.
Ça va bien, ça va bien. Nous, l'école est finie.
Non, nous, ça continue. Voilà, mais voilà. C'est bien aussi, hein, c'est pas mal.
Alors nous on va continuer donc avec les jeux du mois. Bon alors les jeux du mois, on va commencer avec le jeu de David. David, tu vas nous parler de The Witness.
Alors, moi, c'est Arnaud, du coup.
C'est pas oh là, David. Ouf, ça y est, ça va plus. C'est parce que David est parti
c'est
fini,
c'est et il est la fin.
Voilà, mais c'est parce qu'il écrit sur les notes de l'émission là, qui nous fait des bisous et tout ça, donc voilà. Vas-y, Arnaud. Donc, The Witness.
Alors, du coup, The Witness. Alors, The Witness, je suis désolé d'avance, je vais pas pouvoir en parler longuement parce que j'ai pas pu tant avancer que ça dans le jeu. Malgré tout, je vais en parler donc brièvement de ce petit jeu, de ce puzzle game sur une île mystérieuse. Donc typiquement en fait c'est un jeu qui ma foi est plutôt joli. Bon après le détail et la finesse, la définition du graphisme n'est pas non plus extraordinaire, mais je dirais que c'est pas nécessairement pour ça qu'on va faire qu'on va jouer à ce jeu. C'est plutôt pour ce côté puzzle game, énigme. Voilà, c'est un plutôt pour ça, plutôt détendant en plus. La musique qui est douce, il y a personne qui vient te sauter dessus pour te tuer, te bouffer ou j'en sais rien. Donc voilà, donc ce jeu, eh bien, on commence comment ? Eh bien, on commence, on arrive, enfin, on incarne un personnage au milieu d'un temple. On ne sait pas ce qu'on fait là, on ne sait pas où on est. On sait pas trop ce qu'on doit faire au départ et puis voilà, on n'a pas vraiment beaucoup d'informations. On voit une porte, on veut pouvoir l'ouvrir et là on peut pas ouvrir la porte et il y a un mécanisme et nous voilà face à notre première énigme et premier puzzle à résoudre. Donc finalement le principe du puzzle est assez simple. On a un point de départ, hein, où on peut avoir plusieurs points de départ mais qui sont symbolisés par un point de départ, je ne sais pas bien comment je pourrais le définir, et il faut arriver à un point de sortie, donc à un autre angle, à un autre endroit, où on va avoir la flèche dans l'autre sens pour sortir. On va avoir forcément plusieurs chemins possibles pour y aller, et c'est là où le puzzle game va devenir de plus en plus complexe. C'est-à-dire qu'au départ, on doit aller que d'un point A au point B, on peut prendre 10 000 options pour y aller et ça se passe bien. Et puis, au fur et à mesure, eh bien, on va devoir passer par des endroits où finalement les chemins vont se réduire en possibilités, parce que il y a des passages qui vont être coincés sur le trait, parce que pas encore très bien défini, c'est qu'il faut aller d'un point A à un point B, mode labyrinthe, mais on ne peut pas se repasser sur soi. C'est-à-dire, c'est un peu comme le Snake sur le Nokia 3310, là. c'est-à-dire qu'on peut pas passer, on peut pas repasser sur le chemin sur lequel on était. Ouais. Donc, on doit aller d'un point A à un point B en esquivant les obstacles qu'il pourrait y avoir. Et c'est là où ça devient de plus en plus complexe, parce qu'après, il va y avoir des points blancs, des points noirs, où en fait, il va falloir qu'on arrive à passer d'un point A à un point B, mais en séparant bien tous les points noirs des points blancs. sur le carré ou sur la zone du labyrinthe. Voilà, donc c'est un peu ce principe-là. Et ça va se complexifier au fur et à mesure. Donc il y a plusieurs zones sur cette île. Donc j'en ai pas encore fait, je les ai pas toutes faites, j'en ai fait que quelques-unes. J'ai fait celle, le temple, un genre de temple zen, et puis surtout le jardin botanique. Genre de serre où tu peux t'as des plantes, etc. Et c'est là où au final au début tu trouves ça assez simple parce que vraiment voilà c'est pas si compliqué que ça pour résoudre les puzzles. Et puis là tu te retrouves devant cette serre et puis tu dis mais c'est quoi ce bordel, je comprends pas, j'ai la bonne solution et pourtant ça marche pas. Donc moi qui d'habitude aurais passé énormément de temps devant en disant tiens etc, mais comme j'ai un temps certes limité, vous m'en excuserez, hein, j'ai été voir vite fait sur internet, sur les amis, c'est quoi ce bordel, pourquoi ça marche pas. Et c'est là où je dis non mais en fait il faut que tu utilises le décor. Et c'est là où au final ça me donne une autre dimension au jeu. Déjà il faut trouver quel décor c'est, et là en l'occurrence c'est des panneaux teintés, donc soit bleu, soit vert, soit rouge, peu importe. Et finalement quand tu regardes le puzzle game à travers ces panneaux colorés, eh bien, tu t'aperçois que les billes en fait, ne sont pas tout à fait de la même couleur. Mmh. Et donc, tu as des séquences de couleurs. Il faut que tu joues avec ces différentes couleurs pour avoir le bon passage. Donc là, revient à un jeu de mémoire en plus, parce que soit il faut se rappeler, parce qu'en fait, là où tu les vois, tu ne peux pas les actionner. En gros, tu regardes à travers le panneau. Et donc là, du coup, tu vois ce qui... Donc, tu te rappelles par quel chemin il faut que tu passes. Tu vas devant et tu le fais. Soit tu te munis d'un crayon et d'un papier. Et tu notes globalement le passage. Et puis comme ça, ça t'évite d'encombrer la mémoire des diverses X puzzles, parce qu'il y en a quand même de nombreux... de nombreux à travers le jeu. Et voilà, et donc tu t'aperçois que voilà, il y a finalement une autre dimension, c'est que il faut prendre en compte le jeu dans toute la dimension, c'est-à-dire et le puzzle game de base mais au finalement les décors qui t'entourent pour pouvoir résoudre les différentes énigmes, etc. Donc j'en ai résolu deux pour l'instant, et tu t'aperçois qu'à la fin de cette énigme, ça t'envoie un gros laser vers une grande montagne. Mm-hmm. Donc je sais pas exactement combien il y en a en tout, mais c'est plutôt sympa, c'est génique, détendant, donc détendant au quel point un casse-tête reste détendant, donc ça dépend des gens, la personnalité des gens, il y en a qui ont peut-être pété un câble, mais voilà, c'est malgré tout assez sympa. Le principe de résolution des énigmes est assez simple. Maintenant, voilà, il faut quand même faire attention à ce qu'on fait et comment résoudre les différents puzzles. Je rajouterais que il y a aussi des passages qui étaient assez marrants où le puzzle se transforme aussi en marche, c'est-à-dire que finalement plutôt que de avec ton écran voir le passage avec la souris en gros, eh bien il faut que tu marches. En gros le c'est des genres de panneaux lumineux sur lequel quand tu marches, eh bien, il s'allume. Et c'est en marchant que tu dois faire ce puzzle. Sauf que tu t'aperçois que le puzzle au sol réel, il a été endommagé par certains endroits, etc. Et donc, tu peux pas simplement y aller. Par contre, à ce moment-là, tu peux faire tu peux faire demi-tour éventuellement, ou des trucs de ce genre, pour te déplacer comme il faut. Puisque là, finalement, tu es physique, donc tu peux sauter, etc. Ouais. Alors que malgré tout, ça reste... Enfin, désolé, c'est pas forcément très clair, mais c'est pas facile à expliquer. C'est-à-dire que globalement, vous prenez un puzzle, comme d'habitude, où il y a ces points noirs, ces points blancs. Sauf que là, du coup, c'est ces points noirs et ces points blancs qu'il faut réussir à projeter sur la plateforme dans laquelle on va marcher. Et donc, il faut s'en souvenir où est-ce qu'ils sont pour réussir à marcher comme il faut. Sachant que en plus, dans cet espace-là, eh bien, il y a des plaques qui ne marchent plus, il y a des arbres qui sont effondrés, etc. Il y a des moments où tu peux pas juste passer. Mm-hmm. Et donc voilà, c'est un inverse ce coup-ci, c'est qu'il faut le noter où sont les points blancs pour trouver le passage, tout en étant dans le jeu et ce coup-ci en se déplaçant. Donc voilà, je trouvais que c'était pas mal intéressant dans le finalement la tortuosité de l'esprit pour réussir à arriver à bout de ces puzzles. Donc je les ai pas encore tous faits, donc à voir ce que me découvre encore le jeu, mais c'est ma foi assez sympa. Plutôt coloré, et puis voilà, donc c'est sur une île déserte, on sait pas trop ce qu'on y fait, hein, malgré tout, à voir cette île mystérieuse, quel secret elle révélera une fois que j'aurai avancé plus en avant, mais ma foi, c'est plutôt sympa, c'est ça, moi, Globalement, ça me détend. C'est vraiment le puzzle game. Je ne sais pas à quel point on ne pourrait pas y jouer aussi sur tablette, parce que je trouve que ça s'y prête très bien. Moi, j'y joue sur mon ordinateur, généralement juste après l'émission. mais voilà, donc c'est plutôt sympa. Donc pour ceux qui sont pour amateurs de puzzle game, c'est tout à fait sympathique à jouer.
Mmh. Bon, bah, donc quand il pleut cet été, voilà.
C'est ça.
Alors, quant à moi, je vais vous parler de The Division. Les périodes de fêtes de fin d'année aux États-Unis, c'est le Black Friday. Des billets de banque imprégnés d'un virus mortel sont mis en circulation et provoquent la chute des États-Unis en 5 jours. C'est le chaos total. Des agents dormants appartenant à une unité secrète, la Division, sont alors activés. Une première vague a été activée et ils sont tous portés disparus ou morts. Nous faisons partie de la seconde vague, activée 2 semaines plus tard après la catastrophe à New York. Des gens se sont regroupés afin de faire la loi dans New York. Il vous revient de ramener l'ordre dans New York face à ces bandes. Des émeutiers qui sont des gens complètement random, hein, qui profitent du chaos pour apporter leur petite pierre à ce chaos. les nettoyeurs, adeptes du lance-flammes et de la combinaison hazmat, qui pensent que le salut de New York passera par la crémation du bon peuple.
C'est ça, par les flammes, comme pour les sorcières.
Voilà. Les Rikers, des taulards évadés, une société militaire privée, enfin bah, voilà. Chaque bande a pris le contrôle de quelques quartiers de la ville, et vous aurez l'occasion de les croiser assez souvent pour vous en couper l'envie, de les recroiser. En plus de ramener l'ordre, vous êtes également sollicité afin de faciliter la découverte de l'antidote du poison vert au cours de quêtes médicales. Au centre de la ville se trouve la Dark Zone, une zone PVP, donc joueur contre joueur, dans laquelle une seule règle s'applique, chacun pour soi. Étant relativement nul, j'évite la Dark Zone, mais elle a de l'intérêt, car elle permet de récupérer de l'équipement de valeur. Malheureusement, cet équipement est contaminé et doit passer par une extraction, avec un hélicoptère, hein, en vue d'une décontamination. Le hic, c'est qu'une fois que vous avez appelé l'hélico pour l'extraction, un compte à rebours se déclenche et tous les joueurs aux alentours sont prévenus qu'une extraction est en cours. Ils seront donc tentés, bah oui, de venir vous tuer pour récupérer votre butin. Sachant que
tu veux pas sortir autrement que par cette extraction, genre à pied.
Non, voilà. toi tu dois sortir à pied, mais ton butin tu dois forcément le
défendre,
l'extraire par l'hélicoptère parce qu'il doit être contaminé, donc il doit être emmené dans une zone de décontamination.
Ah, c'est bien pensé du coup.
Voilà. Donc c'est un moment de stress intense. Mais en fait, il y a deux types d'agents. Donc il y a les agents et les agents renégats. Les agents renégats, c'est ceux qui attaquent les agents gentils. Et les agents renégats, en fait, c'est n'importe qui se met à attaquer un agent devient un agent renégat, mais pendant un temps limité. Si, enfin, tu sais, c'est comme quand dans World of Warcraft, t'attaques quelqu'un et t'actives le PVP, quoi. Donc, sinon, il y a les zones de PVE, hein, tout le reste, c'est les zones de PVE, qui proposent des quêtes principales et secondaires. Les quêtes ont un aspect assez répétitif, au bout d'un moment. Mais c'est pas forcément très grave pour moi, parce que le jeu est bien rattrapé par deux choses. La première, c'est son emballage. New York est vraiment superbe, et l'ambiance posée fonctionne, mais vraiment très bien. Les déplacements, le gameplay sont très efficaces et permettent une très très bonne immersion. De plus, l'histoire du jeu s'inspire de l'opération Dark Winter, qui est une simulation d'une attaque bioterroriste sur le sol américain, donc c'est un vrai truc, hein, et la directive 51, directive présidentielle en cas de catastrophe majeure. Ce qui donne à l'ensemble une excellente crédibilité et renforce là encore l'immersion. Le monde qui nous est donné est crédible. On sent vraiment on se sent vraiment comme l'élu qui doit ramener l'ordre. La seconde chose qui fait oublier les défauts du jeu, c'est évidemment la possibilité de jouer en équipe. C'est quand je dis la possibilité, en fait, je devrais dire que c'est presque une obligation. L'inconvénient, c'est que moi, j'ai pas de copains pour jouer avec moi. Et, donc, J'ai failli jouer avec Franck qui était venu dans une émission, mais voilà, ma fille est tombée malade et donc ça a annulé notre session de jeu. J'ai dû garder ma fille. Bah, voilà, il y a des priorités dans la vie. Hein. Mais enfin bon.
Mais non, je suis là pour parler pieds, hop, réglé.
Donc même sans ça, on ne peut, enfin même sans avoir joué en coop, on ne peut pas passer à côté de l'intérêt qu'on a à jouer en coop, parce que en fait, ça se devine très très rapidement. Enfin, ça se ressent très rapidement l'intérêt de jouer en coop, parce que ça rajoute une nouvelle dimension, un aspect tactique qui se met en place très très vite, surtout dans les quêtes principales, un peu moins dans les quêtes secondaires, mais surtout dans les quêtes principales, parce que du coup, on va se faire un plan d'attaque de la zone où se déroule la quête principale. Donc, par exemple, une des premières quêtes principales, c'est dans le Madison Square Garden. Et tu dois partir à l'assaut des émeutiers qui ont pris d'assaut le Madison Square Garden. Et qui, enfin, voilà, et donc, tu dois progresser dedans. Donc, je l'ai fait tout seul. Alors, tu as des PNJ qui t'accompagnent sur certaines missions. Ils t'accompagnent surtout au début, hein. Après tu les vois plus trop parce que soit ils se sont fait tuer, soit je sais pas quoi. Mais enfin voilà. Mais tu peux le faire tout seul. C'est une possibilité. Après tu peux aussi lancer une recherche de groupe. Bon, je l'ai fait une fois, je me suis fait virer du groupe, j'étais trop nul. Enfin parce que tu sais, moi je commençais le jeu, donc je savais pas ce qu'il fallait faire.
Non, mais ça reste pas très cool, quoi.
Ouais, voilà.
Ça fait vraiment au pick-up sur WoW, quoi.
Ouais. Et donc, voilà, mais enfin, le fait de jouer en groupe, après tu dis, bon, ok, alors moi je me positionne là, toi tu te positionnes là-bas, parce que il va falloir prendre les mecs à revers.
Il faut deviner ce que les autres vont faire. Il y a moyen de dialoguer ou il faut deviner ce que les autres vont faire?
Ah non, bah, tu peux parler si t'as un micro, oui.
D'accord. Sinon, il y a un chat quand même ou pas?
Oui. Le jeu en groupe, ça te change la vision et l'expérience que tu as de ce jeu. Mais il n'empêche qu'en solo, ça reste quand même très agréable et motivant. Les missions de quête principale sont des mises en scène, dans un décorum franchement magnifique. Hein. J'ai parlé du Madison Square Garden, mais il y a aussi d'autres choses. Il y a des bâtiments complètement inconnus, tu sens que c'est une zone qui est habitée, il s'est passé des trucs, c'est le chaos, il y a des lits, des lits de camp de fortune partout, tu sens qu'il s'est vraiment passé un truc. Toi, t'arrives deux semaines après et tu sens qu'il y a eu un vécu là pendant ces deux semaines avant que tu ne connais pas. Et tout ça est retranscrit absolument magnifiquement. C'est typiquement le genre de jeu que je voudrais faire. On en parlait tout à l'heure en actu, que je voudrais faire en VR avec des copains. Mais j'ai pas de copains.
Il y en a pas la VR.
Voilà. Je suis immergé dedans sans faire quoi que ce soit. On y croit. Sinon, c'est un jeu que je vous propose en tant que jeu de l'été parce que, c'est un jeu dans lequel il faut s'investir un petit peu. Et chaque quête ne sauvegarde pas en cours de route. Il faut donc être bien conscient.
Il faut la valider, quoi.
Voilà, il faut être bien conscient que si vous commencez une quête, il va falloir la finir. Surtout une quête principale. Une quête principale, il va falloir compter une bonne demi-heure au moins pour la finir en règle générale, parfois plus.
Du coup. C'est quoi? C'est un genre de monde ouvert fermé, c'est ça? C'est un monde immense, mais malgré tout avec des bordures sur les côtés, j'imagine. Et puis,
c'est New York, quoi.
C'est quoi? C'est un peu, oui. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est la ville de New York ouverte. Tu peux pas, enfin, elle est pas illimitée, quoi.
Elle est mise en quarantaine.
D'accord.
Donc, c'est
à Manhattan, quoi.
C'est ça.
D'accord, donc ouais, t'as quoi de jouer dans Manhattan? C'est quand même pas mal, si c'est à l'échelle, c'est quand même déjà pas mal grand. Mais du coup, au niveau des quêtes, etc., c'est-ce que t'as des genres de villes quand même où tu peux te ravitailler et où des quêtes, les rendre, etc. Ça fonctionne comment?
Ta grande base. Où tu dois développer trois ailes, donc tu arrives, c'est un grand bâtiment, alors je sais plus du tout ce que c'est comme bâtiment, mais c'est le grand bâtiment en face du Madison Square Garden. Et donc tu dois développer ton aile médicale, ton aile technologique et ton aile je sais plus en faisant des quêtes principales et en faisant des quêtes secondaires. Et dans chaque quartier tu as une sorte de mini QG des forces de l'ordre qui va te débloquer les quêtes du quartier. Et donc les quêtes principales, pas les quêtes principales, les quêtes secondaires du quartier. Et les quêtes principales, elles sont données par le grand QG. Et c'est comme ça que tu progresses, que tu gagnes des niveaux et que tu peux aller dans les zones avec les méchants qui sont de plus haut niveau, etc., etc., etc.
D'accord. Et donc ouais, t'as une progression par niveau quoi.
Par
genre
niveau,
FPG,
ouais.
C'est ça.
Oui, c'est. Alors ça risque. Enfin, moi, ça me sort un petit peu de l'immersion parce que voilà, c'est un environnement qui est réaliste. Donc des pistolets, des grenades, des fusils, etc. Et du coup, quand tu t'attaques à du gros niveau, tu peux lui tirer 20 fois dessus, il rigole, quoi.
D'accord. Alors tu vois. Oui, alors que, ok. Mais du coup, au niveau des levels, je veux dire, t'as des points de compétences, t'as des arbres intéressants.
Ouais,
ou
tes compétences, tu vas pas les débloquer avec un niveau, tu vas les débloquer avec tes ailes technologiques, médicales, etc. Et après, tu vas choisir, toi, ce que tu équipes en compétences.
Et du coup, j'imagine que cet endroit-là, il est instancié, puisque finalement, tu peux croiser d'autres joueurs, c'est ça ? Donc cet
endroit-là
est instancié ?
Non, alors c'est plus comme du... Il n'y a aucun chargement, il y a un chargement au début et c'est tout. Mais c'est plus comme The Elder Scrolls Online. Tu vois, tu ne vas pas voir tout le monde.
D'accord, oui, c'est ça, ça reste de l'instance, mais non chargé, quoi.
Voilà, enfin, c'est ça, ouais. Okay. C'est ça. Tu croises des gens, mais tu vas pas croiser forcément tous les gens qui sont
tous les gens
en train de jouer.
D'accord. Et même dans ces zones-là, du coup, il y a quand même d'autres personnes.
Ouais.
Ok.
Donc voilà. Ouais.
Et j'avais une autre question, mais je me rappelle plus. Ok, vas-y.
Oui. Donc je disais donc au niveau des quêtes, faut être bien conscient que voilà, si vous arrêtez une quête avant de l'avoir finie, il va falloir recommencer au début. Donc un jeu à réserver pour des soirées, si possible entre copains. Mais j'ai pas de copains. les soirées d'été quand les enfants sont
pas sur PC, mais sinon ça.
Bah oui, non mais voilà.
De moins en moins sur PC. Pour
quand t'auras ton Shadow. Mais du coup à réserver quand les enfants
sont. Ouais, parce que justement, je regardais, je me dis mais tiens malgré tout, parce que tu m'avais montré quand même quelques screenshots avec le Shadow. Ou franchement le truc qui déchire.
Ah bah,
je
vais
voir comme ça. Et là je regarde configuration requise, hein, juste pas recommandée, hein, la minimale. Intel Core i5, 6 Go de libre, 6 Go de mémoire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi ? Donc GeForce GTX 560 avec 2 Go. Et puis Internet au débit, 40 Go d'espace libre. Oui, enfin il faut quand même déjà une configuration, pas des pourris. Et c'est là où je me dis que déjà la mienne, à mon avis, enfin mon PC il a quelques années déjà, donc ouais non ça passera pas.
Donc je disais, donc les enfants sont couchés évidemment quand on y joue, hein, c'est vulgaire, et puis on tue des gens en leur tirant dessus, hein, de manière réaliste. Donc voilà, il y a 3 DLC disponibles, mais déjà le contenu de base, je pense que c'est suffisant pour tenir l'été si vous êtes casual, enfin hein, au moins comme moi. C'est frais, hein, ça se passe en hiver, il neige, et ça change aussi de ce qu'on a l'habitude de voir sur un MMO, parce que oui, vous l'avez peut-être deviné, hein, c'est un MMO. On peut y croiser d'autres joueurs, et c'est pas seulement dans la Dark Zone, donc comme je te le disais tout à l'heure. Hein. C'est un jeu sans prise de tête. Il y a un aspect complétiste, hein, pour les joueurs un peu comme toi, parce qu'il y a plein de trucs à ramasser. Il y en a vraiment plein partout, des enregistrements, ce qu'ils appellent des échos. Donc c'est des petits enregistrements de ce qui s'est passé dans un lieu, et c'est une sorte d'instantané qui est revécu par l'audio. Et comme ça on en apprend plus sur le lore du truc, il y a de tout, il y a du craft, du lore, du coop, du PVP, et le tout c'est très bien dosé. Donc
est-ce qu'il y a des zones genre gros boss où là en effet il faut un peu de la coopération, ou seul c'est pas possible, un peu comme les gros MMO avec donjons et boss?
Les boss, moi, j'arrive à... Enfin, jusque-là, hein, je suis arrivé à me les farcir tout seul. Mais ça demande de la persévérance, hein, parce que ils ont un point faible, et parfois le point faible, eh ben, il est pas forcément accessible quand t'es tout seul, parce que il faut que t'arrives à le prendre de revers, donc il faut que t'arrives à faire le tour, alors que si t'es à deux, bah, tu t'en mets un devant, un derrière, et c'est plus simple, quoi.
Ça arrive à la question, ouais. Et du coup, ça aussi, au niveau de la difficulté, du nombre d'ennemis, est-ce que c'est incrémenté par rapport au nombre de joueurs qui en face?
Ouais, bah, je sais pas, j'ai pas d'amis, alors.
Donc, c'est genre, tu sais, les bonhommes de base, est-ce qu'ils sont doublés quand il y a deux, ou est-ce que.
Voilà, aucune idée. Idée. Je pense que la difficulté doit s'adapter, parce que sinon, tu leur roulerais dessus, quoi.
D'accord.
Donc voilà, alors, donc ça c'est la recette de The Division, c'est sous Windows, Xbox One, PS4 pour 49,99€, mais en ce moment ce sont les soldes Steam d'été.
Il est, je vois, donc, 60%, il est à 20, ouais. Moi, il est affiché à 28 dollars canadiens.
Donc il est à 20€ chez nous, prix auquel je l'ai également eu au cours d'autres promos, hein. C'est un jeu qui commence, mine de rien, malgré ce... les ressources qu'ils demandent, qui commencent à dater un petit peu. Donc voilà, c'est prenez-le en promo, parce qu'en plus, bah, si ça vous plaît, bah, les DLC après, bah, il va falloir les acheter. Mais déjà là, non, chouette, très chouette, c'était une bonne surprise.
Et au niveau là, je vois des commentaires en dessous, au niveau de la Dark Zone, apparemment, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui ne le recommandent pas à cause des aspects des tricheurs et des gens qui sont en PVP. Mode triche, là, genre ouais. Mode invincible ou autre. Tu l'as vécu, ça, ou au final tu fais pas beaucoup de PVP?
Non, je me suis dit que j'allais aller une fois dans la Dark Zone, et puis je devais jouer avec Franck, et donc là je me suis dit, ah, bah, je vais aller dans la Dark Zone avec Franck, donc je vais attendre un petit peu. Et puis comme la session s'est annulée, j'ai pas eu l'occasion d'y rejouer depuis, donc voilà. Okay. Mais je me suis quand même renseigné sur le sujet.
Sans le PVP, ça reste super sympa, quoi.
Ah ouais, mais oui, complètement. D'ailleurs, je me demande pas si le PVP va pas gâcher mon expérience de jeu, tu vois, le jour où je vais m'y mettre.
D'accord.
Enfin voilà. Bon, eh bien, c'était tout pour moi. Alors, si je résume. On a parlé de The Witness pour s'aérer l'esprit, comme tu dis, hein, donc se casser la tête, et The Division pour se casser les dents. C'est tout. Donc voilà, et puis sinon, eh bien, vous nous retrouvez sur papapodcast.fr pour retrouver les notes de l'émission, avec tous les liens qui vont bien dont on vous a parlé durant toute cette émission. Et vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux, évidemment, sur iTunes, où vous pouvez nous laisser des commentaires, hein, comme on a eu en début d'émission, avec des plein d'étoiles. On adore avoir des étoiles dans iTunes, et aussi plein les yeux. Et je crois que j'ai fait à peu près le tour. Hein. Alors, évidemment, vous nous retrouvez sur iTunes, Earthdis et PodCloud. Et puis, on se retrouve donc le mois prochain pour un nouveau Papa à quoi tu joues. Donc, au mois d'août, le mois prochain, je vous proposerai des petits jeux, parce que là, j'ai fait un gros jeu. Donc, je vous proposerai au moins deux petits jeux, histoire de passer le temps si jamais il pleut au mois d'août encore. Ça sera terrible. Voilà. Allez, je vous embrasse et faites un bisou à vos loulous. Ciao à tous.
Ciao à tous. Et puis comme ça, je te laisserai derrière. Qu'est-ce que t'en penses? Parce que ça a l'air de... C'est déjà du plus gros, ce que tu as, toi.
Ça marche. Donc, tu préfères que je sois derrière. D'accord, ok. Bon, bah, pas
tout de suite.
Ah bah, c'est toi, tu m'as dit, je te laisserai derrière.